Bonjour Philippe Larbier.
Bonjour.
Ça fait 10 ans qu'existe le festival de Saint-Ouen-les-Vignes et il me semble que ça fait 10 ans que tu viens, toi, ici.
Oui, il me semble aussi, je ne crois pas avoir raté une année. D'ailleurs, j'aurais regretté si j'avais raté une année parce qu'à chaque fois, c'est une belle expérience. Parce que d'abord, c'est champêtre, ça nous change un peu des festivals qui se passent dans les gymnases. Il y a des copains, il y a un peu de bière, c'est toujours une ambiance très, très chaleureuse, très sympathique.
Tu pensais il y a 10 ans qu'il resterait aussi longtemps ce festival parce qu'il a commencé petit, hein ?
Mais je crois qu'il est resté petit justement, et c'est sa qualité. Les festivals qui veulent grossir souvent se perdent en grossissant, et ça devient plus des festivals, ça devient des salons. Celui-là, il y a toujours le côté convivial, l'esprit convivial est toujours resté intact, et moi c'est ce qui me touche. Là-dessus, les perspectives dans 10 ans, déjà moi-même je ne savais pas où j'allais, donc c'est compliqué de voir pour les autres. Je pense que je ne savais pas que dans 10 ans après, moi je serais encore là par contre. Voilà.
Question publique, toi, est-ce que tu retrouves toujours ton public à Saint-Ouen-les-Vignes ?
À l'occurrence, c'est mon public qui vient me retrouver, parce que moi je ne vais pas vers lui, mais lui vient vers moi. Alors c'est incroyable le nombre de gens qui reviennent me voir. Alors, je n'ai pas de mémoire, j'ai un problème de mémoire assez grave. Ça peut être vexant, c'est-à-dire que je ne me souviens pas forcément des têtes ni des noms des gens qui viennent me voir, mais eux se souviennent bien de moi, et donc c'est vaut mieux ça que l'inverse. Et c'est vrai qu'ils reviennent régulièrement. Alors, moi, je trouve ça très touchant, ça veut dire que je leur laisse à chaque fois, j'espère, une bonne impression. Parce que le fait de vendre un livre ou dédicacer sur un livre, ça ne veut pas dire que les gens nous aiment. S'ils reviennent, c'est déjà un peu la preuve, c'est une petite preuve d'amour quand même.
Alors, c'est évidemment les petits mythos qui est vraiment... c'est ta série phare du coup c'est beaucoup du jeune public qui vient te voir.
Oui, c'est un jeune public qui se renouvelle, c'est l'avantage. Le public des enfants de 10 ans se renouvelle plus vite que le public des vieux de 70 ou 50 ans. C'est un avantage, c'est que ça... et puis ils peuvent rester fidèles un certain temps. Je sais bien qu'à un moment je les perdrai ou ils me perdront, mais le temps que ça dure, j'en profite. Là, ça fait 5-6 ans que la série dure. J'ai le sentiment qu'ils sont toujours là. Donc voilà, je fais en sorte de les garder aussi le plus longtemps possible.
Oui, on en parlait. Toi, tu fais beaucoup de festivals, justement. Tu vas à leur rencontre. N'empêche, tu te déplaces quand même sur les festivals, même si c'est eux qui viennent te voir régulièrement. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire.
Je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, je ne m'étais pas posé la question comme ça. Et un jour, quelqu'un m'a montré une photo d'un festival un peu pourri dans un gymnase, dont on a souvent l'habitude. Et avec un peu de gens, des vieilles nappes, des vieux calicots, des vieux trucs. Et je me suis dit, j'ai vraiment une expression de sincérité, je me suis dit, mais au fond, c'est ma vie, ça. Alors, je pense pas à Saint-Ouen-les-Vignes, parce que Saint-Ouen-les-Vignes, c'est tout sauf, justement, le vieux gymnase, mais la plupart des festivals, ça se passe dans des lieux qui se ressemblent ils sont tous un peu pareils, dans toutes les villes de France. Et en fait, on ne choisit pas sa vie, je me dis que c'est là où je suis heureux. C'est couillon, je ne suis pas dupe. C'est souvent un peu triste, quoi, parce qu'un vieux gymnase, on relève les paniers de basket, on sent le papier accroché à la table, on voit les mêmes bénévoles de 70 ans, on voit la même buvette. Mais c'est ma vie, voilà. Comme disait Adamo, c'est ma vie, je ne l'ai pas choisi, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, c'est ma vie. Et en fait, j'aime ça.
Alors, outre les petits mythos, tu as sorti un projet local, un peu un projet original, différent, sur les châteaux de la Loire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? D'où est-ce qu'il vient d'abord ?
Déjà, c'est plus un projet puisqu'il est paru. Alors, le projet vient d'une idée de l'éditeur et du scénariste. Il ne pensait pas à moi pour le dessin, mais il se trouve que moi, j'habite en Touraine, donc j'avais une légitimité plus grande pour le faire, sachant que je pouvais le défendre un peu plus souvent dans la région, parce que je suis un peu le régional de l'étape. Donc c'est une idée d'éditeur que je n'ai pas choisi au départ. Franchement, je ne l'aurais pas fait si on ne me l'avait pas proposé, que je n'avais pas dit oui. Après un repas, j'étais un peu j'avais bu avec modération. Et c'était un peu difficile.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et donc c'est le moment où on dit oui. Et après on rentre chez soi, on se dit mais quel abruti j'ai été. Pourquoi j'ai choisi un sujet pareil ? Enfin, pourquoi j'ai accepté ce sujet-là ? Après, ça a été très compliqué à faire. Mais je ne peux pas dire que j'ai détesté... J'ai pris mon plaisir à le faire et le bouquin aujourd'hui je suis fier qu'il existe, donc ça n'a voilà, ça pas été inutile. Alors ce sont les châteaux de la Loire racontés en BD à travers des anecdotes historiques d'origine réelle. On l'a fait de manière humoristique pour qu'on ait du plaisir à le lire, mais on apprend quand même des choses dedans. Voilà.
C'est qui le scénariste ?
Christophe Cazeneuve, le même que pour les petits mythos et le même aussi que pour les Make-ups ou les Sisters. Voilà. C'est un scénariste important chez Bambou, mais c'est mon scénariste attitré. Et comme c'est un ami, donc voilà, forcément, je mêle l'utile et l'agréable.
Et alors l'idée, c'est d'avoir choisi des châteaux déjà et d'avoir choisi des périodes historiques ou des anecdotes historiques un peu marquantes.
Bah, disons que les châteaux, leur histoire historique, elle est marquée sur 2 siècles à peu près. Alors, on est parti sur 7 châteaux, on a pris 7 châteaux au hasard. Quand je dis on, c'est le scénariste qui a choisi, qui a fait son choix. Il n'a pas pris les plus célèbres ou les plus beaux. Il a pris ceux dont l'histoire se mélangeait à celle de l'histoire de France. Il y a des châteaux, pareil, alors il y a Chambord, il y a Chinon, Langeais, Ussé.
Amboise.
Amboise, évidemment. Bibloua, oui, Amboise. Bah oui, Amboise. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne dis pas ça parce que c'est la radio d'Amboise, mais c'est le premier château pour lequel, c'est le premier château qu'on a travaillé, d'ailleurs.
Ah.
Voilà. Et comment dire, il y a des châteaux très, très beaux aussi. Je pense à Azay-le-Rideau, le château d'Azay-le-Rideau ou d'autres qu'on n'a pas utilisé parce qu'elle n'est pas intégrée dans l'histoire de France. C'est des châteaux privés qui ont leur histoire magnifique, mais qui n'est pas... On imagine que quelqu'un de Perpignan ne verra pas l'intérêt historique du château. Voilà. Celui d'Amboise, c'était le premier qu'on ait fait parce que c'est peut-être le plus célèbre, mais c'est le plus emblématique par François Ier notamment. C'est le plus emblématique.
Et alors du coup, quel type de petit scénario vous avez créé là en l'occurrence à Amboise, vous recréez la venue de François Ier, c'est ça, ou vous trouvez d'autres types d'histoires?
Alors, il s'est passé pas mal de choses, alors faut découvrir ça dans l'album, mais il y a eu pas mal de choses où, avec François Ier notamment, des affaires politiques, des décrets, des histoires un peu aussi un peu romanesques, par exemple l'escalier double, par exemple, de François Ier. Là, on ne pouvait pas ne pas en parler, donc il y a des châteaux qui ont été plus terribles, qui sont plus associés par rapport à, par exemple, à la guerre de religion de la Saint-Barthélemy. Là, je pense au château de Blois, par exemple, où ça... Voilà, c'est le scénariste qui décide, qui a décidé le choix éditorial de l'album.
Et alors toi, au niveau des dessins, est-ce que tu as eu un travail ou tu as voulu faire un travail aussi historique, respecter les costumes d'époque, enfin pas les costumes pour le coup, mais les habits d'époque, certains éléments d'époque?
Alors ça, c'est clair que je pouvais rigoler sur les personnages, sur la gueule des personnages. Il y a une chose sur laquelle on ne pouvait pas rigoler, c'était évidemment le château, il fallait qu'il soit absolument authentique. Parce que c'est là où les personnages se retrouvent, enfin les gens voulaient retrouver les châteaux, pas forcément les personnages. Dans les costumes, bon, j'ai fait un peu de fantaisie, mais dire que c'était vraiment les costumes de l'époque, c'est compliqué parce que la plupart le problème, c'est que moi, je partais de gravures ou de tableaux, mais les tableaux ne sont pas forcément faits d'époque. Et donc, on se retrouve des fois avec des costumes qui ne correspondent pas à l'époque, mais à l'époque originale, mais qui correspondent à l'époque du peintre, c'est-à-dire 50 ans ou un siècle plus tard. Je me suis dit que le public n'allait pas m'embêter avec ces détails-là. On voyait bien la Renaissance, quand c'était la Renaissance, le Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Voilà. Mais on a évité l'anachronisme, sauf quand on était vraiment volontaire.
Et quel est le public, du coup, visé par ces albums? C'est des enfants, comme pour les petits mythos, ou c'est tout public?
Alors, c'est tout public, mais honnêtement, je ne pense pas aux enfants. Quand je l'ai fait, je ne pensais pas aux enfants. On a fait en sorte que les enfants puissent le lire. Je donne un exemple très simple, on n'a pas fait de choses graveleuses, parce qu'il y avait des choses graveleuses où on ne les montrait pas, parce que le public, les enfants pouvaient le lire, et que, comme pour les petits mythos, on ne montre pas de choses graveleuses. On peut être scatologique, mais pas graveleuse, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. On peut faire un personnage en train de vomir parce qu'il est dans un bateau, mais on n'ira pas plus loin, voilà. Et là, c'est pareil, la Saint-Barthélemy, par exemple, j'ai évité les traces de sang sur les vêtements, on ne voulait pas faire une décapitation, on ne voulait pas, voilà. Donc... On travaille pour les adultes en se disant que le public enfant ne doit pas être choqué. De la même façon, pour les petits mythos, on travaille pour le public enfant et on se débrouille pour que le public adulte ne soit pas choqué non plus. Voilà.
Il y a une part de pédagogie dans cet album. L'idée, c'est aussi de faire connaître les châteaux de la Loire ou faire connaître certains points d'histoire. C'est ça aussi l'intérêt de la BD?
Alors, c'était ça surtout. Quand on a fait les petits mythos, on pensait à pas de l'aventure, mais à raconter des histoires sur un fond historique. Et là, c'est sur un fond historique, on a fait des histoires. C'est-à-dire que le château, c'est vraiment le côté pédagogique est vraiment intégré dedans. D'ailleurs, en travaillant avec Christophe, on est assez au diapason par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense vraiment que l'avenir de la BD, c'est de faire des choses rigolotes, si on peut le faire, et où on apprend des choses à la fin. C'est-à-dire que quand on a refermé, on a appris des événements, dont on ne sert pas tout de suite, mais on les a intégrés. Et je trouve que la BD devient vraiment géniale quand on intègre la pédagogie et le plaisir. C'est pas du tout antinomique. On peut raconter des histoires et de s'amuser. Je pense que le château de la Loire, c'est un peu le cas, j'espère. Les petits mythos, c'est flagrant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui me disent ils l'ont lu de manière gratuite et à la fin ils se sont dit bah oui, mais je sais qui est Sisyphe, je sais qui est Eurysthée, je sais qui est Héphaïstos. Mais en le lisant, ils ne se rendent pas compte. Mais après, les noms reviennent. Et surtout, on incarne les personnages. Alors, plus pour la mythologie d'ailleurs que pour l'histoire de France, c'est-à-dire que les personnages, si je vous dis Sisyphe, si je te dis Sisyphe, personne ne sait à quoi ressemble Sisyphe. C'est un personnage qui est abstrait. Il n'y a pas d'image de Sisyphe. Sisyphe, c'est le gars qui pousse son caillou en haut d'une montagne. Nous, on l'a incarné, on l'a dessiné, c'est devenu un personnage récurrent. Donc, c'est quand les gamins lisent une page où il y a Sisyphe, Sisyphe, ils le reconnaissent. Quand plus tard, ils entendront parler du mot Sisyphe, ça reviendra et pour eux, ça sera le personnage emblématique.
Ça marque la mémoire, quoi.
Ça marque la mémoire. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai, avec Christophe, on a créé un monde qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on a... on l'a incarné. Et Atlas, personne ne sait à quoi ressemble Atlas. Ben, on a fait un personnage qui est un peu récurrent aussi. Évidemment, on l'a fait de manière comique, mais c'est devenu un copain des gamins, quoi. Les gamins, ils ont dit, tiens, Atlas, il a encore fait une connerie. Ou là. Et c'est génial, parce qu'Atlas, c'est un personnage, celui qui soulève le monde, c'est un personnage dont ils entendront parler toute leur vie. Enfin, moi, la mythologie grecque, ou la culture grecque, c'est vraiment la base de notre civilisation, de notre culture. Et que les gamins qui s'intéressent à la mythologie s'intéressent à beaucoup de choses en général. Voilà.
C'est un plaisir pour toi de, j'allais dire, délirer ou en tout cas t'amuser avec des personnages comme ça de la culture française, mythologique ou historique d'ailleurs, et les faire à ta sauce, leur faire dire ou faire des bêtises, faire des choses marrantes.
Ah oui, en plus, moi j'ai un avantage sur la mythologie. Quand on a commencé à faire la série, je connaissais très peu de choses sur la mythologie, pas plus que n'importe qui, plutôt moins d'ailleurs peut-être. Et maintenant, disons que je peux me vanter d'en savoir autant que mes lecteurs. Ouais. Avec un album d'avance. Sans que je fasse l'album. Par exemple, le prochain, c'est sur les chimères. Je connais plein de personnages chimériques que je ne connaissais pas, les harpies, les personnages comme ça, et que maintenant, je les connais bien et je me cultive en même temps. C'est ça qui est formidable avec Christophe, c'est que c'est plus que de la BD. Il y a un rôle pédagogique, comme tu disais, le mot est juste, ouais, pédagogique. Ouais.
Donc les petits mythos, prochain album sur les chimères, et puis cet album des Châteaux de la Loire qui est déjà sorti chez Bambou aussi. Et on te retrouvera en signature d'un château l'autre dans le coin bientôt.
Alors on a dédicacé au château du C, c'était très très agréable. Celui de Blois, c'est prévu cet été. Ouais. Celui d'Amboise, c'est compliqué à mettre en place. C'est très compliqué les châteaux, c'est pas des lieux faciles. Si Amboise m'appelait ou ça les intéressait de m'avoir, j'ai fait savoir que j'étais à Tours, donc c'était pas compliqué pour moi de monter là-bas. Et je suis un peu en plan pour faire celui de la librairie en bas du château à Amboise. Voilà, mais je les connais pas, mais ça commence à se préparer. Mais j'ai aucun problème à venir dédicacer dans un château, moi, cet été notamment.
Bon, on te retrouvera peut-être donc librairie lue et approuvée sur les quais, là.
Alors, si les conservateurs des châteaux ou les responsables des librairies nous entendent, ben voilà, je suis à Tours, voilà.
Merci beaucoup, Philippe, et j'espère à l'année prochaine.
Ah, ben j'espère aussi.